Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
La tête là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, 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 ça y est, ben, bien sûr, évidemment. Où avais-je la tête? Voilà. Alors, c'est l'heure de l'émission, c'est clair, mais ah, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. D'habitude, ça se passe dans la ville, et là, eh ben, ça va se passer en province, dans la campagne. Je vous en dis pas plus, hein.
Gabriel Elbaz, vous préférez le sapin ou le chêne? C'est quoi votre essence préférée? Alors, il y en a peut-être...
Le noyer.
Ah, le noyer.
Le noyer, parce que ici, dans le Lot, on a la chance d'avoir une terre qui reçoit très bien le au niveau climatique, le noyer.
Vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Donc je l'ai précisé, qui se passe à la campagne.
Alors, on est ici à La Tronquière, petit village dans le Lot. C'est ça, on n'est pas loin d'Aurillac, on est pas loin de la Corrèze quand même. On est au carrefour de
la Corrèze, du Cantal et de l'Aveyron.
Et je vous remercie de nous accorder ce petit entretien parce que vous êtes, je dirais, le dépositaire d'un lieu incroyable dans lequel vous exposez vos œuvres. Donc, bonjour à vous. Et merci de nous accueillir.
Merci à vous. Merci.
Et vous avez, quand on a préparé ce petit entretien que je viens de vous proposer et qu'on réalise maintenant, vous m'avez raconté plein de choses incroyables. Et j'aimerais pouvoir, avec vous, justement, en connaître beaucoup plus. Alors, vous êtes au départ un ébéniste d'origine russe, vivant à Paris. Vous êtes un Parisien russe, on va dire.
Avant, il faut que je le raconte rapidement. Quand j'étais enfant, ma mère était assistante sociale d'Ivaro, dans le Calvados, et mon père était photographe dans cette même ville. Et bon, il va mourir à 39 ans, il était malade, etc. Et donc, à l'école, je m'ennuyais beaucoup. Et ma mère m'a emmené à Caen, dans un des premiers grands magasins, pour m'acheter un manteau.
On va y venir.
Probablement.
On va y venir, Gabriel Elbaz. Vous faites ce métier d'ébéniste, donc de spécialiste du travail du bois, on va dire ça comme ça. Effectivement, ce qui va donner aussi faire naître une vocation chez vous, c'est la sculpture sur bois. Et vous atterrissez un jour, alors il y aurait de quoi faire 2 heures d'émission avec vous, même 3 heures, parce que votre histoire est riche, elle est remplie. Hein, en préparant cet entretien que vous m'accordez aujourd'hui, vous m'avez déjà raconté tellement de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous me le permettez, c'est ce lieu où nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de toute une série d'événements dans votre vie. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Mais finalement, ce magasin qualité, confiance, bon marché.
Extraordinaire.
Incroyable. Ah. Incroyable. Nous sommes ici et faut et
c'est ce sont les Loud. Ce sont la famille Loud, R-E-Y, qui vont prendre l'initiative de, étant originaire d'ici, de la Tronquière. La Tronquière, en réalité, l'article là est de trop, ça devrait être Tronquière.
Alors, la Tronquière, qu'on précise un peu, combien d'habitants?
400.
400 habitants. Et ça fait, à l'époque, vers les années 30, un boom terrible dans l'autre, parce que c'est une espèce de copie, de petite copie, toute proportion gardée, du bon marché. Un grand magasin qui va s'ouvrir dans ce petit village, qui va attirer tous les lotois et même au-delà du lot. Un magasin où on trouve tout ce que les clients ont envie de trouver.
De tout un petit peu, comme ils disent.
De tout un petit peu.
Ils ont vécu à Paris, donc ils ont vu le bon marché, ils ont vu tout ce grand magasin. Et hein, ils étaient 2 frères et ils se sont lancés. Alors, ils ont dit récupérer un architecte pour faire cette façade Art déco des années 30. Et par contre, les maçons viennent de la Creuse. Alors, et les gens dans le Lot ne savaient pas, dans les années 30, manier le béton armé. La façade est en béton armé.
Oui, alors, c'est incroyable. On est dans un bâtiment art déco, style totalement art déco. Donc, à l'époque, la famille Loud fait bâtir de toutes mains ce bâtiment pour l'adapter à ce style de grand magasin pour ce village et puis pour la région, en réalité. Et là, l'aventure commence. Pour vous, elle a déjà commencé depuis longtemps, hein. Vous avez été ébéniste à Paris, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez commencé la sculpture, vous êtes installé ici, vous étiez venu en vacances, le Lot, vous avez...
Coup de foudre.
Ouais, c'est ça, c'est coup de foudre.
Je voulais quitter la capitale et puis vivre dans la forêt et vivre dans la bougie. Bon, bah, j'ai mal tourné, maintenant j'ai une pompe à chaleur.
C'est pas grave. En tout cas, la chaleur de ce lieu dans lequel vous nous accueillez aujourd'hui, elle est réelle, même si aujourd'hui il fait un peu chaud à cause du soleil. Un endroit merveilleux. Alors, racontez-nous, vous découvrez ce bâtiment. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, en fait, j'habitais pas loin, mais je le connaissais pas.
Non, parce que le long de la route, on ne voit pas, il est dans l'enfilade de la rue. La rue, donc je ne voyais pas. Et par contre, une fois par an, il y avait la fête de l'arbre et on m'invitait à faire un atelier pour les enfants. Alors j'amenais des planches que je préparais, bien rabotées toutes propres, avec un établi costaud. Et puis je mettais 4 enfants à tour de rôle. Je leur demandais, oh, tu as sûrement un dessin que tu aimes bien faire de temps en temps, etc. Et ils disaient oui, etc. Ben alors, vas-y, tu faisais un dessin. Et je leur faisais faire un petit méplat. Qui est un petit bas-relief, détourer le dessin. Et voilà, donc ça durait, bon, ils sculptaient pendant 1 heure chacun, et ils repartaient avec leur planche, et surtout, je leur demandais de dater pour qu'ils le gardent en mémoire chez eux pour plus tard.
Alors ça c'est l'activité que vous avez au sein de la Tronquière.
Il y a une dame, Claudette Ballette, qui me dit, ah Gabriel, je vais vous montrer un bâtiment. Et nous partons à pied, et elle me montre ce bâtiment avec une façade des années 30. On pousse la porte, et puis là, j'ai saisi tout presque tremblant. Elle me dit, calme-toi, Gabriel, calme-toi.
La frénésie vous prend?
Ben, j'ai été très surpris de cette grandeur de bâtiment.
Et vous le trouvez dans son jus?
Je le trouve pas dans son jus, puisque l'escalier central, elle est déplacée.
Enfin, il y a un certain nombre d'éléments.
Ah oui, c'est-à-dire, bon, toutes les étagères en bois, etc., ils les ont retirées malheureusement, les seconds propriétaires, ils ont mis des étalages en métal, couleur crème. Bon, je sais pas qui l'a mis là. Mais bon, c'était très vaste. Et ça, j'ai été émerveillé de ça. Voilà. Et j'ai appris plus tard qu'il y avait une association qui voulait acquérir du village, ce bâtiment pour faire un café associatif, mettre la lumière.
Faire revivre le lieu.
Ils ont essayé de l'accueillir, mais ils n'avaient pas les sons. Et finalement, une nuit, je tournais dans mon lit. Et puis, voilà, n'ayant pas pu envoyer mes sculptures en Russie à cause de 2008, parce qu'il y a eu les subprimes, et donc les deux camions qui devaient partir de Moscou pour venir chercher les sculptures, ça n'a pas pu se réaliser. J'ai pu quand même en faire partir une, et pour le musée d'histoire qui s'intitule une Stalingrad, en mémoire de cette immense bataille qui a fait le tournant de la guerre.
Alors, là, on découvre, et vous nous l'apprenez, je l'ai un petit peu évoqué, mais en réalité, vous êtes un ébéniste, vous êtes un sculpteur, mais vous sculptez depuis toujours, depuis en tout cas très longtemps, et vous sculptez des sculptures monumentales. Hein. La moindre sculpture, elle fait combien? 2 mètres?
2 mètres, 3 mètres, là, 2-3 mètres.
2-3 mètres, dans du bois. Il y a un peu tous les bois, d'ailleurs.
Oui, il y a du noyer, il y a du saule, il y a du platane. Et, voilà, il y a du cerisier, parce que j'ai une autre grande salle où j'ai des sculptures qui sont entreposées.
Et si on regarde le côté pratique, il faut de la place pour votre...
Il faut de la place.
Pour votre...
Il faut de la place. Peut-être que ça vient des visites, comme faisait ma mère, en m'emmenant dans les abbayes, les cathédrales, dans tous ces lieux, parce que ma mère était très pieuse venant de Russie, et elle avait été emmenée dans les églises orthodoxes par un pope qui était un cousin de la famille.
Alors c'est vrai que c'est un côté monumental,
voilà,
aux sculptures.
Et j'ai voulu surtout, c'est très important, j'ai voulu faire une continuité de l'art sacré, parce que dans nos églises, bien sûr, on a des artistes qui font des vitraux, qui font des choses, mais en sculpture, c'est assez maigre. Alors évidemment, pourquoi on n'en trouve pas? Parce que l'église n'a plus de sous, et donc ils vont pas faire travailler les artistes. Mais moi, d'une façon complètement libre, je me suis dit, mais moi, je vais me lancer là-dedans, parce que ça m'intéresse. En plus de l'ébénisterie que j'ai fait, donc j'ai créé un deuxième atelier, et je me suis lancé dans la taille directe, à sculpter comme on sculptait dans l'Antiquité, et bien avec des gouges et le maillet.
Gabriel Elbaz-Kerkhoff,
oui.
Vous croyez en Dieu?
Probablement. Alors, pourquoi pas certainement? Déjà, il y a des choses dans la vie courante, dans ce qu'on vit actuellement, il y a des gros problèmes. Mais bon, au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a un mystère, parce que j'ai eu le culot de créer une sculpture qui fait 3 mètres, qui s'intitule « Les âmes ». Voilà. Et de toute façon, j'ai comme sûrement beaucoup de monde, une incompréhension du sens de nos vies. Voilà.
Si vous me le permettez, revenons au lieu dans lequel nous sommes. Il y a tellement de choses à discuter avec vous. On va revenir aussi sur vos œuvres. Hein. On va y revenir parce que c'est évidemment le centre de tout.
Oui.
C'est vos œuvres, mais le lieu. Vous, une nuit, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous me l'avez raconté, vous vous réveillez. Vous êtes pris de
3h du matin, je tourne dans mon lit et je lui dis de dire lâcher ce bâtiment.
Et ben voilà, et ben je vais en faire mon propre lieu d'exposition, c'est bien ça?
Voilà, c'est tout à fait ça.
Alors il faut de l'argent?
Pas beaucoup, ça c'est sûrement énorme pour les gens qui ont malheureusement pas de sous.
Il faut aussi de l'énergie.
J'ai acheté 30 000 euros et ça faisait 10 ans qu'il était en vente.
Mais par contre, il y a un travail énorme de restauration et de remise en état.
Oui, alors d'abord, il y a eu un élan de la population, des gens à la retraite, qui m'ont aidé à retirer beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait de l'amiante sur les murs, etc. Il y avait énormément de choses. Mais le travail m'a fait partie de moi-même. J'ai une nature travailleuse, donc ça ne dérangeait pas de travailler. Voilà, par exemple, le parquet, ce parquet-là, à cet endroit-là, qui est 160 mètres carrés, mais je l'ai arraché seul, là, et puis j'ai fait fabriquer ce parquet en chêne, en 27 mm d'épaisseur, et premier choix, étant ébéniste, hein, on va pas mettre n'importe quoi.
Il est magnifique, je peux en témoigner, il est magnifique.
Et j'ai mis des pointes torsadées, ouais, voilà, il grince pas.
Sur l'embourde, posé sur l'embourde.
Non, sur carrément des poutres.
J'ai posé sur des poutres.
Enfin, des poutres.
D'accord, des grosses...
Les poutres sont saines, donc il est...
D'accord.
Donc le parquet est splendide et j'ai donc entreposé un certain nombre de sculptures ici.
Et donc Gabriel Elbaz-Kerkhoff, vous créez le musée Gabriel qui est géré en association et qui a pour vocation l'exposition permanente de vos œuvres.
Voilà, d'une partie de mon travail.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Voilà, voilà.
Si vous me le permettez, nous allons faire une longue pause musicale pour souffler. Nous sommes le 30 novembre 1979 en Grande-Bretagne. Le morceau que nous allons écouter figure dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Il est le dernier grand succès du groupe qui va l'interpréter. L'album faisant partie des meilleures ventes de disques à travers le monde avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie, il est également le double album le plus vendu au monde. Cet album d'où est extrait ce morceau donnera naissance à un long métrage. La réalisation du projet s'étalera sur 4 années. Le film sortira en 1982. Il traite du problème de l'isolement et de ses conséquences mentales. Les chansons suivent tout un fil conducteur pour former une histoire. De ce fait, cet album est considéré comme le plus dur et le plus théâtral de ce groupe mythique. On écoute Pink Floyd. Le morceau a pour titre The Wall.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Certain teachers who would let the children any way they could. control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone.
Messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Alors, il y a des œuvres qui me tenaient à cœur. Par exemple, à Carénac, on a, dans le Lot, on a la mise au tombeau, qui est du 16e siècle, et j'ai tenu la faire en abstrait. Ça ne s'était jamais fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà. Alors donc, à quoi ça ressemble, j'ai vu dans les années 90, en Algérie, il y avait la guerre civile, c'était terrible, c'était affreux. Il y avait les gens se gorgeaient, etc. Et ils montraient donc la mise en terre des plus malheureux. Et donc, et les gens qui entouraient la fosse de leurs parents, eh bien, ils levaient les bras au ciel, où ils étaient, ou alors autrement, dans une autre attitude, ils étaient abattus, comme ça, les bras baissés devant la dépouille qui était enveloppée d'un drap. Et donc, j'ai vu ça, et je me suis dit, ben voilà, probablement qu'en Palestine, à l'époque du Christ, eh bien, peut-être ceux qui entouraient le corps du Christ levaient les bras au ciel ou étaient abattus en affliction. Donc, j'ai retiré l'aspect figuratif en creusant chaque arbre, et avec un mouvement élevé que j'ai patiné à la terre de Sienne, et donc j'ai refait ce qu'on trouve à Carénac, donc Joseph d'Arimathie en boue, après Marie-Madeleine, abattu, Jean, le frère de la Vierge, qui a les bras levés, la Vierge qui est abattue, et puis la forme de maternité qu'elle a eue. Ensuite, Marthe, aussi, les bras levés, et Marie-Salomé, et Nicodème en bout. Et le corps du Christ est allongé sur un sarcophage en bois, et puis le corps du Christ a seul l'aspect un peu figuratif, où on voit les cinq plaies qu'il a eues, donc aux pieds, aux mains et au point du cœur. Voilà. Et je l'ai exposée un peu partout en France. Elle a été exposée à la basilique Saint-Denis. Elle a été exposée à Moissac, dans l'abbatiale, au Jacobin à Toulouse, dans l'église Jacobin, à côté du reliquaire Saint-Thomas-Baptin, à Moissac aussi, dans beaucoup de lieux. Voilà. Et je pense que c'était important de montrer une continuité de l'art sacré chrétien dans l'abstrait, pourquoi pas.
Alors, on le voit bien, quand on est ici, le côté sacré quand même de vos œuvres, mais est-ce que toutes, finalement, font référence à l'art sacré?
À force de baigner, là, actuellement, je travaille encore sur que de sacré, mais dans une autre culture, dans la culture perse, je travaille sur Ahura Mazda. Ahura Mazda, c'est écrit A-H-U-R-A, Ahura, Mazda, M-A-Z-D-A. Mazda, c'est le feu. Donc, c'est une religion perse qui remonte à plusieurs milliers d'années. Et donc, on ne va pas pouvoir dater, c'est très compliqué. Mais ça a été la religion qui a été prise à Persépolis. Si vous allez à Persépolis, donc la ancienne capitale perse, qui est aujourd'hui l'Iran, hein, dont la capitale est Téhéran aujourd'hui. Donc, à Persépolis, vous avez un méplat qui représente un oiseau, un aigle, qui a les ailes écartées. Et dans les textes de l'Avesta, vous avez l'aile droite qui représente la pensée juste dans les textes de l'Avesta. Et l'aile gauche représente la parole. La queue représente l'orientation. Entre les deux ailes, vous avez un grand cercle qui symbolise le cosmos. Et au-dessus, vous avez des flammes qui représentent, voilà, le feu qui représente la pureté. Alors, on y voit aussi souvent l'imagerie de Zarathoustra. Zarathoustra, on pourrait le faire un parallèle avec saint Thomas d'Aquin. C'est un gars qui a voulu faire des modifications dans l'Avesta. Et d'ailleurs, il s'est mis les mages, donc les prêtres, à dos. Il a fallu qu'il fuit. Le pauvre Zarathoustra, donc, il s'est réfugié auprès d'un seigneur. Lui-même était d'origine aristocratique. Malheureusement, il sera tué, etc. Mais il aura eu le temps de faire des modifications en créant ce qu'on appelle les gathas. Ce sont les textes qui reprend les textes de l'Avesta, mais d'une façon plus directe pour s'adresser à Dieu. Comme saint Thomas d'Aquin, qui a été excommunié parce que les religieux à son époque abrutissaient un peu le peuple. Et donc, lui, il disait, mais non, il faut s'adresser directement, on n'a pas besoin de faire tous ces rites, etc. Il a été excommunié. Voilà. Et une partie de son reliquaire est dans l'église des Jacobins à Toulouse.
Alors, là, on vient de survoler avec vous, plusieurs civilisations, on était en Perse, on était, bon, revenons à la Tronquière. Oui. Allez, on retourne à nouveau là où vous êtes, là où nous sommes installés aujourd'hui pour cet entretien. Oui. J'imagine qu'il y a des projets ici qui sont sous le chapeau, qui vont surgir un beau matin. Vous avez des envies, des idées. Racontez-nous, Gabriel Elbaz-Kerkhoff.
Le problème que j'ai, c'est que la sculpture que je fais, et donc je fais cette sculpture d'Ahura Mazda, elle fait 3 mètres, elle est allongée dans mon atelier, donc je la sculpte allongée. Comme c'est du sacré, je voudrais que les plumes de ce fameux oiseau soient à la feuille d'or. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, parce que ça coûte cher, ou alors peut-être avec de la peinture dorée. Et autrement, elle sera polychrome, parce qu'il faut savoir que si vous allez au Louvre, si vous regardez toutes ces statues, la plupart qui ont été volées en Perse, en Iran, eh bien, au Louvre, dans les sous-sols, ben, vous voyez tous ces soldats, etc., sur ces mosaïques, tout ça, c'est très, très coloré. Donc, je ne peux pas faire cette sculpture contemporaine qui n'est pas une remarque de ce qu'on voit sur le méplat à Persépolis. Non, je le fais autrement. C'est-à-dire que les ailes déployées, j'ai eu la chance de trouver un noyer dont les branches m'assemblent. C'est-à-dire que les publics, quand ils verront la sculpture en place, verront que les ailes reçoivent les gens qui regardent tout le monde.
Il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, Gabriel Elbaz-Kerkhoff. On va conclure cet entretien, si vous me le permettez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter toute cette histoire incroyable.
Bah oui, c'est les vacances, il fait très chaud, on est dans le Lot.
Alors justement, pour venir vous rejoindre et visiter, voir vos œuvres et visiter ce lieu magnifique. Alors, la Tronquière, dans le Lot. Voilà. Bon, alors il y a plusieurs moyens d'accès, le train, la voiture, bien sûr. Le train, c'est la gare de Figeac, c'est par la gare d'Aurillac aussi.
Figeac ou alors Biars, en changeant à Brive.
D'accord.
Et après, il faut une voiture pour venir à la Tronquière. Voilà, et on va. Alors le musée, il est ouvert jusqu'à. Je vais vous dire, il est ouvert parce qu'on le ferme en hiver. Il est ouvert jusqu'au 12 octobre. Mais autrement, c'est ouvert le vendredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, de 14h30 à 18h30. Alors évidemment, s'il y avait que mon travail, ça finirait par être ennuyeux. Alors j'ai créé une association où on est une douzaine à s'en occuper.
Vous accueillez d'autres artistes.
L'association accueille des artistes par trois ou par quatre et ils viennent exposer dans les autres salles. Et voilà, donc et c'est de l'art contemporain. Et c'est très intéressant de faire ça parce qu'on rencontre, on a la chance de rencontrer ces artistes. Et pour rendre plus attrayant encore ce musée d'art plastique, eh bien, tous les mois, nous faisons un vernissage et nous accueillons des musiciens qui vont jouer peut-être pendant 20 minutes, pas plus. On a aussi une conteuse qui est venue. Et donc, alors, les gens viennent, etc., au vernissage, on met plein de chaises, ils écoutent le petit concert. Et puis ensuite, on présente les artistes, etc. Et puis, on a un buceux qui est fait par les gens de l'association. Moi, je fais un gâteau aux noix chaque fois. Mais voilà, donc ça se passe comme ça.
C'est de l'art culinaire.
C'est de l'art culinaire. Je tiens à faire le gâteau aux noix parce que c'était une femme du pays qui me permettait de manger le midi quand j'étais en train.
Et en plus, j'adorais le noyer.
Et j'adore le noyer.
Si j'ai bien tout compris. Gabriel Elbaz-Kerkhoff, je rappelle donc que c'est le musée Gabriel à la Tronquière. Au magasin universel, ça s'appelait comme ça au départ.
Voilà, 46-400.
Voilà, qui est devenu maintenant...
Pas 46-400, 46-300 ou 200, je ne sais plus.
Bon, on regardera sur Google, hein, ouais. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
Merci.
Et puis, n'hésitez pas, hein, je recommande à tout le monde de venir jeter un petit coup d'œil chez vous et de s'y installer. C'est confortable, c'est agréable, c'est joli. Et puis, pour admirer vos œuvres, parce que c'est quand même le but de l'opération.
Ben, le but de l'opération, oui, il fallait que je les mette quelque part, pas une certaine, parce que j'en ai beaucoup plus ailleurs, chez moi.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Gabriel Elbaz-Kerkhoff. Merci.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Nous allons faire une deuxième pause musicale. Le morceau qui va suivre est extrait du 8e album studio d'un monumental guitariste. Il est nord-irlandais et cet album sort en 1990. Comme l'indique son titre, il marque le tournant de ce guitariste vers un style blues électrique plus affirmé. L'album a bénéficié des contributions de quelques gloires du blues et du rock comme Albert King, Albert Collins et George Harrison. Pour l'anecdote et pour les spécialistes, les spécialistes du son bien sûr, ce guitariste a choisi d'enregistrer avec un microphone dynamique supercardioïde directement dans la pièce de mixage plutôt qu'avec un gros micro dans une cabine de prise de son. Voilà, hein, les spécialistes, je vous laisse juger. Il souhaitait donner au son une touche plus authentique, plus passionnelle et proche d'une émotion live pour éviter un son de studio trop lissé. Le succès de l'album a été conséquent. Il reste certainement un des plus gros succès solo de ce guitariste. On écoute Gary Moore et le morceau a pour titre « Still Got the Blues ».
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
it so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain. Just a game, playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space used to be.
De l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Jacques Rival, vous préférez le bois ou la peinture ?
La peinture.
Et pour quelle raison ?
Eh bien, tout ce qui, je suis tombé un peu dedans, quoi, définitive. Ça m'a, l'art visuel, les tableaux m'ont inspiré. Et c'est vrai que de tout petit, j'ai décidé de faire de la peinture en Sicile.
Jacques Rival, en préparant brièvement cet entretien, puisqu'on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, et on va l'évoquer, et là, à cette occasion, vous exposez au musée Gabriel. Alors, ça fait suite à l'entretien qu'on vient d'avoir avec Gabriel Elbaz-Kerkhoff. Oui, à l'occasion de cette visite que nous avons menée au musée Gabriel, en compagnie de Gabriel Elbaz-Kerkhoff,
on vous a rencontré, Jacques, on se connaît aussi depuis longtemps, mais là, vous avez, vous êtes aussi un hôte de ce musée et vous avez présenté un certain nombre de vos œuvres. Alors, on va y venir à vos œuvres, mais vous m'avez raconté en préparant cette émission, ce petit entretien, quand vous étiez très jeune, vous avez donc démarré très jeune le dessin, les petites illustrations, vous faisiez quelque chose d'assez curieux sur les livres que vous lisiez, vous faisiez des illustrations, racontez-nous.
Disons que c'est vrai que peut-être par ennui, mais j'étais un petit peu à la campagne et les étés je les trouvais un peu longs. Et en définitive, je prenais les livres et c'est comme j'aimais le dessiner. On trouvait que j'étais adroit, mais enfin bon, peu importe. Et je me suis mis à illustrer les pages de ce que je lisais. Donc, et c'est comme ça que je l'ai montré un petit peu. Ça, de suite, on m'a dit c'est bien, Kaden. Et mais malgré tout, c'était une façon pour moi de m'exprimer. Chez moi, j'avais beaucoup de musiciens et je trouvais plus ma place quand même. Donc, pas ma place quand on a dans une famille où il y a beaucoup de musiciens, chacun un instrument. Moi, je sais pas que j'aimais pas, mais j'avais envie de trouver un espace.
Et donc, c'est le dessin, c'est l'illustration qui prime chez vous, tout petit déjà.
Oui, c'est ça.
Alors, beaucoup d'eau sont passées sous les ponts, bien sûr. On vous retrouve dans les années 87-99, Jacques Rival qui crée des œuvres, des acryliques sur bois, Alerter les bébés, L'étape, et vous êtes donc pris de la jeune peinture française au Quai Branly. C'est déjà une petite étape pour vous, vous êtes reconnu.
Oui, disons que j'ai commencé la première exposition en 77, exactement, j'avais à peine 20 ans. Et bon, c'est pareil, mes parents, mon père surtout, était un peu intellectuel quand même, de sa façon. Donc, il rencontrait beaucoup de gens et il avait des personnages qui étaient, justement, qui avaient connu le trio d'une autre génération et tout ça. Il parlait beaucoup peinture et à force de parler de mon travail, il m'a fait venir des gens qui connaissaient la peinture. Il m'a dit, faut exposer à Cissé. Ils m'ont dit, faut exposer à Toucault. J'étais pas tout à fait préparé. Je savais que j'allais exposer parce que j'avais envie de faire de la peinture et d'exposer. J'ai exposé assez rapidement. J'aurais peut-être pu prendre un peu de recul. Puis, en définitive, la première expo m'a ouvert plein d'autres choses. Et après, bon, j'ai mieux construit mes expositions. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai jamais arrêté de peindre. De sculpter. Ça m'arrive de sculpter pas du bois, mais de faire aussi des sculptures, des livres d'artistes, de la gravure aussi, exactement.
Alors, de fil en aiguille, vous le racontez bien. Et là, on s'est recroisé à nouveau au musée Gabriel à la Tronquière. Alors, Jacques Rival, bonjour. J'ai oublié de vous dire bonjour. C'est mal poli.
Non, moi, c'est bonjour à vous.
Ma mamie, pris par le sujet, j'oublie parfois. Merci de m'accueillir chez vous. Et votre atelier est à côté. On s'est croisé il y a quelques jours au musée Gabriel, à la Tronquière, un musée très très étrange, perché dans un village au milieu de nulle part et au milieu de beaucoup de choses en même temps dans le Lot. Là, vous avez été accueilli par Gabriel Elbaz Terkoff, qui l'a bien expliqué dans l'entretien qu'il nous a donné, où effectivement son musée est aussi un lieu d'accueil pour d'autres artistes. Alors, quel effet ça fait de se retrouver dans un espace comme ça?
Disons que ça faisait... Bon, le lieu existe depuis 3 ans, mais en définitive, l'année dernière, il y avait une programmation assez complète déjà, comme cette année, et j'ai vu 2-3 amis qui exposaient. Donc, je suis allé au vernissage, enfin, pas toujours au vernissage, mais voir les expositions, et par rapport à l'amitié que j'avais avec eux et leur travail, et j'ai découvert le lieu moi-même. Moi-même, enfant, je n'étais pas jamais allé dans ce temple du marché universel de la frontière.
Oui, c'est ça, le magasin universel.
Le magasin universel. Il faut dire que la frontière à cette époque-là était quand même un village prospère, puisque les gens, comme c'était un peu sur des hauteurs, enfin, les altitudes, il y avait de nombreux hôtels pour se refaire une santé aussi. Donc, c'est pour ça que c'était très riche.
C'était un lieu pur, un lieu d'illégiature.
Voilà, un lieu d'illégiature.
Alors, pour vous, cette expo, c'est évidemment une façon de de vous soigner quelque part. Tous les artistes doivent se soigner, peut-être. C'est ce qu'on raconte. Mais vous, vous exposez là-bas. Alors, racontez-nous, c'est quoi finalement le thème de votre exposition?
Disons que je représente à peu près, ça représente un petit peu une quinzaine d'années de mes dernières années de peinture, quoi, que je présente là. Et bon, c'est vrai que ce lieu, Gabriel, toute son équipe, l'envie qu'ils avaient de vouloir faire ce lieu et de le faire vivre m'a touché, parce que bon, c'est aussi intéressant de voir aussi la démarche des gens quand ils ont envie de vraiment faire, l'envie de faire plaisir aux artistes et de vouloir les exposer. Ça m'a déclenché quelque chose. Moi, je suis jacquois, donc c'est pas très loin géographiquement, et donc j'ai eu l'occasion de ressortir des en montrant un peu plus mon travail, puisque j'ai tout le rez-de-chaussée, c'est-à-dire la grande salle et deux petites salles à côté. Donc, ça m'a permis de montrer ces 15 ans de peinture, des dernières peintures dans ce lieu. Voilà.
Alors, vous exposez actuellement au musée Gabriel, mais on vous retrouve fréquemment à Figeac, on vous retrouve à Cahors.
Oui, à la Capelle, puisque je suis le commissaire d'exposition aussi de cette exposition estivale d'été, qui est un château, voilà. Et donc, là, c'est une ouverture aussi sur des artistes, des amis, mais aussi des artistes que j'ai rencontrés, ça me permet de les montrer. Voilà, c'est pas été une sélection et un parcours assez intéressant aussi, en tant que commissaire d'exposition, de pouvoir choisir des artistes et les présenter.
Je voudrais qu'on revienne sur Alerter les bébés, parce que d'abord, c'est un titre de Jacques Higelin au départ, hein.
Oui, d'ailleurs, je m'en cache pas et je m'en vais.
Un titre de célèbre chanson de Jacques Higelin. Quelle idée? Alerter les bébés, quelle idée?
Alerter les bébés, bon, là, ça représente il y a trois fenêtres avec trois femmes, mais c'est la même femme. Et puis, il y a un enfant, c'est peut-être moi, qui est devant une colombe gigantesque. Hein. Et après, un mouvement d'homme, quand même, un petit peu, si vous regardez bien le tableau. C'était un peu par rapport à notre époque. J'ai toujours parlé de société. J'ai voulu peindre, mais j'ai voulu parler de mon époque en même temps, de ce qu'on pouvait ressentir en tant qu'artiste. On est sensible des fois. Enfin, on est même que catalyseur de ce qui nous entoure. Et c'était un peu ça. C'était alerter les bébés. C'était par rapport à ça, c'est-à-dire préservons les enfants. C'était un peu dans cette œuvre-là.
Voilà. Et une deuxième œuvre à la même époque, L'étape.
L'étape. Bon, là, c'est pareil. L'étape, c'est un tableau où il y a des perspectives. Bon, là, c'était ma première démarche figurative, quoi, en définitive, où il y a carrément, dans beaucoup de mes séries, ces fameuses gouttes solides. Là, elles sont roses. Et bon, il y a un passe-muraille. Il y a des gens qui attendent l'ascenseur. Personne ne se regarde. Tout le monde passe. Il y a une femme qui passe aussi son chemin dans ce couloir. Un homme qui traverse le mur. Et une fenêtre est ouverte quand même sur un chemin. La représentation que vous avez là est un peu petite, mais il y a un arbre en plein milieu du chemin. Donc c'est plein de choses comme ça que j'ai voulu mettre. Et souvent dans cette époque-là, j'ai rendu hommage à certains peintres ou des maîtres, quoi, je veux dire, pas pour les copier, mais les représenter physiquement dans mes tableaux. Avec mon style propre, et je les associe à mes tableaux. Voilà.
Et on termine avec le secret des Ménines. Qui est Ménine? Qui sont Ménines? Qui sont les Ménines?
Les Ménines, bon, c'est un tableau aussi de Velázquez. Bon, bien entendu, j'ai fait mon histoire de l'art aussi, même si j'étais autodidacte. Et Velázquez est ultra moderne quand même. Et alors, le secret des Ménines, bien entendu, c'est cette infante qui a été croquée par Velázquez lui-même et dans le tableau. Il y a une colombe noire pour une fois qui apparaît, et cette Ménine est décédée en définitive. C'était le présage un petit peu de cette Ménine, voilà, qui a été immortalisée, mais qui est aussi morte très jeune.
Alors, tout ça, ce sont des œuvres passées.
Oui.
Bon, on va terminer ce petit entretien rapide, Jacques. Des projets, des idées,
des projets, bien sûr, puisque là, on va voir quand même encore dans cette année, l'exposition du FLAC, je suis le président du Forum Lotois d'Art Contemporain. C'est une association de plasticiens, de gens qui sont regroupés, qui sont pas toujours du Lotois, mais qui ont pied à terre et qui ont envie de faire des choses. Ça existe depuis 38 ans, mais c'est un peu un exemple parce que c'est bon, on a vu des gens qui sont partis aux TC, mais aussi des gens qui sont partis géographiquement de ces associations. Et ça nous permet d'exposer et faire des échanges aussi. On en a fait quelques-uns avec des artistes étrangers. Donc, on a pu montrer notre culture en Chine, en Hollande. Et voilà. Et ça nous a, ça fait une ouverture d'esprit. Moi-même, j'ai exposé dans d'autres cadres par rapport aux galeries, parce que j'ai été repéré aussi, sur Figeac, parce qu'on a une œuvre de Kossuth, le pape de conceptuel. Et qui, au début de la réalisation de cette œuvre, des journalistes internationaux de revues d'art sont venus beaucoup, et j'exposais à côté dans une petite galerie, qui est maintenant l'annexe du musée Champollion, et ils m'ont repéré, donc j'ai exposé à Bastille, dans une galerie. Ça m'a permis de réaliser des œuvres différentes, en fait, c'était des œuvres en sculpture que j'avais été pris, et ça m'a permis de faire, de réaliser beaucoup plus d'œuvres, petites, moyennes, voilà, ça m'a lancé. La sculpture, je n'en fais que par série, par moment.
Oui, parce que, faut le préciser, je vous ai posé la question en démarrant cet entretien, vous êtes à la fois peintre et à la fois sculpteur.
Plasticien, il y a des installations, des fois c'est arrivé, ouais, voilà. Mais moi, je fais un petit peu, j'aime bien toucher à d'autres matières, ou même, après cette figuration que qu'on a parlé, j'ai fait des réalisations abstraites, mais avec de la matière. J'ai aimé faire aussi toucher de la matière, mettre des choses sur la toile ou dessous la toile qui permettent de donner une vie supplémentaire et faire vibrer le tableau.
Jacques Ruval, on peut retrouver certaines de vos créations sur un site, sur un Instagram, difficilement, mais je l'ai pas. Non, un peu sur un site, enfin. Tapez mon nom quand même sur Internet. Hein. Et là, on a différentes publications qui peuvent apparaître.
Voilà. Tapez mon nom, Jacques Rival.
Jacques Rival, marqué 46, s'il vous plaît. Ouais. Parce que j'ai un collègue artiste des Lumières à Lyon.
Un homonyme,
ouais. D'accord. Ouais. Jacques Rival discret, mais en tout cas, que je remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre atelier juste derrière. On s'était croisés donc l'autre jour au musée Gabriel, à la Tronquière. Et on sera ravis quand il y aura des nouveautés, des choses qui illustreront l'actualité de votre travail, de vous revoir, de vous retrouver. En tout cas, merci Jacques.
Merci à vous. Et on se retrouve quand même pour les Lotois du 4 au 14 septembre à Cahors.
À Cahors, hein.
À la chapelle Lamoureux.
D'accord, et c'est bien noté. Merci beaucoup Jacques.
Merci à vous.
L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Un grand merci à Gabriel Elba-Kerkhoff et Jacques Rival pour leur accueil chaleureux. Je voudrais aussi remercier Danny Fauri et Stéphanie Malaret qui nous ont permis de découvrir ce lieu merveilleux, le musée Gabriel, animé par son créateur Gabriel Elbaz-Kerkhoff. Je signale au passage que cet ancien magasin universel est inscrit au titre des monuments historiques. Ça vaut le déplacement. Et je vous recommande donc vivement de vous y rendre. C'est dans le petit village de La Tronquière. Vous faites une petite visite qui vous sera très sympathique. C'est donc le musée Gabriel et vous y serez très bien accueillis. Pour vous aider, je vous signale que La Tronquière, ça s'écrit en un seul mot, La Tronquière. Et c'est sur une commune française située dans le nord-est du département du Lot, en région Occitanie. Je viens de vous le préciser, Danny Fauri nous a aidé à faire découvrir le musée Gabriel et figurez-vous qu'il faut surtout pas hésiter à lui rendre visite, car elle a une bouillonnante galerie qui se trouve à quelques kilomètres de La Tronquière. Pour cela, rien de plus simple. Sa galerie se situe aussi dans le département du Lot, dans la merveilleuse ville de Figeac, non loin de La Tronquière. Et pour cela, rien de plus simple, quand vous êtes à Figeac, c'est juste à côté de la place Champollion, tout près du musée qui porte le même nom. Des témoignages pleins d'enseignements, pleins d'avenir. On en a appris des choses aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. J'espère que pour les auditeurs et les auditrices, il en fut de même. Vous pouvez retrouver l'adresse mail et les podcasts de toutes les étincelles dans la ville quand vous voulez sur le site d'Aligre FM, sur Acast, Spotify, YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la réalisation technique et à la post-production, Didier Robert, que je salue chaleureusement. Avant de nous quitter, laissez-moi vous préciser qu'Aligre FM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontres, d'échanges animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs et de réalisateurs libres, indépendants. Nous signalons au passage que tout le monde est bénévole. Tout au long de l'année au micro d'Ali, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter ou de contempler le monde dans toutes ses composantes. Ali FM, c'est sur votre poste de radio en FM, sur le 93.1, en DAB+, la radio numérique terrestre, mais c'est aussi sur vos écrans, grâce au web, partout. C'est quand vous voulez et où vous voulez pour retrouver en réécoute toutes les autres émissions de la grille des programmes d'Ali FM que je vous encourage à trouver en allant faire un petit tour sur le site d'Aligre FM pour en savoir plus. Permettez-moi de vous rappeler que c'est gratuitement que vous écoutez nos programmes. Aligre FM est un média entièrement gratuit pour tout le monde et pour l'occasion, je voudrais préciser qu'Aligre FM est une radio associative, non commerciale, sans publicité, commerciale, une radio libre qui fête ses 45 ans. Et oui, 45 ans d'existence, c'est loin d'être anodin. Vous souhaitez soutenir Aligre FM, pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de la radio et vous pouvez tout simplement faire un don. Je voudrais aussi remercier tous les collectifs qui organisent et animent l'association, ainsi que le collectif Le Moment, notre partenaire qui réalise l'émission qui a pour titre Le Moment. À la post-production, donc, Stéphanie Malaret, Gaspard Poudon et Didier Robert, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, car pour ma part, lundi prochain à 9h, on se retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle étincelle dans la ville. C'était depuis le département du Lot à La Tronquière que cette émission a été réalisée et nous y avons été merveilleusement bien accueillis. Vous l'avez remarqué, c'était une étincelle provinciale toute proche de la nature. Ça nous a permis d'aller respirer l'air ailleurs. De temps à autre, l'étincelle fait des petites excursions hors de la ville, même si nous étions dans le petit village de La Tronquière entouré de végétation. Et pour le coup, en ce qui me concerne, pour aujourd'hui, l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages de sinistres mémoires ont repris.
En cas de brouillage, cherchez une wire sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.